Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous connaissiez Orson Welles, cinéaste. Vous l'avez peut-être découvert cette semaine, auteur de feuilletons radiophoniques, amoureux du théâtre et de Shakespeare en particulier, réalisateur, acteur, directeur de jeu, homme de radio. Eh bien le voici, en exclusivité pour vous, mesdames et messieurs, chanteur.
I know what it is to be young, but you don't know what it is to be old. Someday, you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I've met. Couldn't find all the answers. No one has as yet. There'll be days to remember, full of laughter and tears. After summer comes winter, and so go the years. So my friend.
Bonjour Marc Cerisuello.
Bonjour Adèle Van Rett.
Vous êtes professeur d'esthétique du cinéma à Paris-Est. On vous doit des ouvrages sur Wes Anderson, Les Frères Cohen, Fondus Enchaînés et la sortie la semaine prochaine d'un collector, d'un coffret de DVD sur Preston Sturges, chez Westside. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de Wells, que vous connaissez très bien également. Vous le connaissiez, chanteur ?
Non, c'est pas
mal, hein ?
C'est intéressant, ça rappelle. C'est un peu mieux que Jean Gabin et un peu moins bien qu'Alain Delon, mais c'est pas mal, ouais.
Moi, je suis conquise. Hein. I know what it is to be young, but you don't know what it is to be old. Vous pouvez retrouver cette chanson, on mettra les références en ligne sur le site. Avec vous, nous allons parler du Wells cinéaste, en fait, de ses deux premiers films, Citizen Kane et La Splendeur des Amberson, deux films très différents, et il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas, on connaît peut-être Citizen Kane de nom, on ne l'a pas forcément vu, mais surtout c'est son tout premier film.
Ah oui, c'est son tout premier film, il est appelé donc à Hollywood après le très grand succès de La Guerre des Mondes, donc des émissions qu'il avait fait pour CBS à la radio américaine, et il a eu divers projets, et c'est le premier projet n'était pas Citizen Kane, c'était une adaptation de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Ça a été adapté 40 ans plus tard par Francis Ford Coppola, et ça a donné, on est passé de l'Afrique au Vietnam avec Apocalypse Now. Mais l'idée de Wells était de faire un film intégralement à la première personne visuelle, c'est-à-dire un film complètement en caméra subjective.
Qu'est-ce que ça veut dire, caméra subjective?
Caméra subjective, ça veut dire que nous sommes la caméra.
Le spectateur.
Le spectateur, c'est-à-dire le personnage principal et donc nous-mêmes. Donc les acteurs parlent à la caméra et donc nous regardent directement. C'est un peu embêtant, ce principe. Et je crois que Wells a vraiment bien fait de faire Citizen Kane. Le film a été fait, en fait, en 1946. C'était pas une adaptation de Conrad, mais de Raymond Chandler. Et c'est un film qui s'appelle La Dame du Lac, avec un autre acteur-réalisateur, moins connu aujourd'hui qu'Orson Welles, mais qui était une très grande star à l'époque, Robert Montgomery. Et Robert Montgomery a réalisé ce film qui était très, très attendu, et évidemment très raté, puisque c'est assez difficile de voir un film intégralement en caméra subjective. Ça, au bout d'une demi-heure, même les spectateurs les plus doués de la meilleure volonté sont lassés par ce système. À la fois, donc, le fait que les acteurs parlent à la caméra, C'est le principe. Le Philippe Marlowe mène l'enquête et nous la menons avec lui. Et c'est un. Je pense que Welles a dû comprendre que cette technique ne marcherait pas forcément. Alors c'est ensuite, il y a eu des très bons films qui ont été faits. L'année suivante, les Passagers de la nuit de Dalmor Daves, avec c'est un des films qui réunit Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Et là, c'est un de ces films avec le personnage qui a le visage bandé à cause d'une opération de chirurgie esthétique. Donc toute la moitié du film, la première moitié, on est en caméra subjective. Il y a l'opération parce qu'il est, il doit changer de visage, et quand on enlève le bandage, on a, devinez, Humphrey Bogart. Et là, on passe effectivement en caméra objective, et le film est beaucoup plus réussi. Pourquoi est-ce que Welles, la question est celle-ci, pourquoi est-ce que Welles a eu envie de faire un film comme ça? Parce que, vous l'avez certainement vu avec le grand spécialiste des émissions de radio wellsiennes, François Thomas.
Lundi dernier, oui.
Une des émissions de Welles à la radio s'appelait « First Person Singular ». La première personne du singulier. C'était des adaptations radiophoniques de grands classiques. Le principe, c'était que pour intéresser l'auditeur américain, il ne s'agissait pas de dire on va adapter Don Quichotte. Je ne pense pas que ça aurait fait un grand succès. À partir du moment, par contre, où quelqu'un dit « Ben voilà, on m'a raconté une histoire absolument incroyable d'un Espagnol qui avait lu des romans de chevalerie et qui était parti avec… »
Ça capte
etc.
plus attention.
Et là, on captait l'attention. Ça a été le principe du succès des émissions de Welles.
Donc, ce qu'il appelait la projection, hein, pour adapter un roman ou quelque chose de littérature à la radio, garder vraiment la trame narrative et un rythme particulier, en enlevant toutes les descriptions, mais vraiment intégrer la narration au sein même de l'interprétation radiophonique.
Exactement. Et cette première personne du singulier, cela renvoie à quelque chose de très américain. C'est une expression d'Emerson.
C'est une expression d'Emerson. Du philosophe
dans certains des premiers grands essais d'Emerson, notamment le savant américain, qui a cette sorte
Donc Emerson, qui est quand même l'intellectuel ou philosophe américain du milieu du 19e siècle.
Voilà, avec Thoreau, un des grands noms du transcendantalisme américain. Et c'est quelqu'un qui a, à ce moment-là, donc dans les années 1830-1840, écrit cette forme de déclaration d'indépendance intellectuelle des Américains, notamment The American Scholar, qui est le premier très grand texte peut-être sur la question.
C'est
70 ans après la déclaration d'indépendance, les Américains restaient, selon lui, trop connectés avec les discours de la vieille Europe. Et il fallait donc rendre là l'usage de la première personne du singulier. Et donc, tous les concepts également d'autonomie, de confiance en soi, self-reliance, ce genre d'essais, sont liés également donc à cet usage de la première personne.
Donc, arriver à dire « je ».
Arriver à dire « je », voilà. C'est l'essentiel pour Emerson, c'est l'essentiel pour Welles. Mais il y a eu ce passage, cette intelligence vraiment de Welles, de se dire finalement… adapter un peu bêtement, entre guillemets, le principe de la première personne du singulier au cinéma et faire un film complètement en caméra subjective, c'était peut-être un peu trop. Et donc, il a, avec Citizen Kane, il a choisi de donner l'usage de la première personne à une série de témoins au cours de l'enquête. Et cette manière de travailler, à laquelle on est tellement habitué, est assez nouvelle à l'époque. Le cinéma restait, malgré tout, un art de l'objectivité. Et donc la manière effectivement de travailler avec le flashback, de travailler avec les projections de chacun des personnages qui sont des énonciateurs, des narrateurs, donc à la première personne. Dans un flashback, en fait, qu'est-ce qui se passe? On délègue à un moment donné la narration à un des personnages. C'est un principe relativement simple, mais c'est quelque chose qui a fait florès dans l'Amérique des années 1940. Et les films noirs ont réellement, de manière beaucoup plus simple apparemment que Welles, mais les choses ne sont pas si simples. Il y a des films noirs vraiment tout à fait complexes, c'est particulièrement intéressant. Et c'est presque une sorte de pastiche du film noir quand on commence à prendre la parole à la première personne et qu'on raconte ce qui s'est passé.
Alors, Citizen Kane, rappelons-le, donc il sort en 1941, considéré par l'American Film Institute comme le meilleur film de tous les temps, d'ailleurs par d'autres personnes également. L'histoire, finalement, est assez simple à raconter. Au début des années 40, un certain Charles Foster Kane meurt dans son manoir de Xanadu en prononçant dans son dernier souffle « Rosebud », ce qui signifie « bouton de rose », en laissant tomber de ses mains une boule de neige. Une boule de neige, c'est-à-dire l'objet, une boule en verre qui a de la fausse neige qui s'agite quand on remue la boule elle-même. Suite à cette mort, une enquête va être menée. On sait qu'il a prononcé, ses derniers mots étaient Rosebud, et on va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il a prononcé ce mot-là, sachant que, et on va entendre l'extrait tout de suite, au début du film, en fait, nous est présenté comme un portrait de ce Kane, qui dure une dizaine de minutes, un portrait journalistique tout à fait neutre. Et le journaliste qui regarde le film dit « Oui, mais attendez, là, ça nous intéresse pas, en fait, cette histoire dit comme ça. Il faut trouver un angle qui va être l'angle du film. Et l'angle, eh bien, c'est l'énigme à résoudre. Que signifie Rosebud ? Écoutez le tout début du film. D'abord, ce mot prononcé avec un gros plan sur le visage de Wells, qui interprète Kane. Et ensuite, le journaliste qui va nous donner la clé même du film et donc du scénario.
How do you like it, boys?
Well, 70 years in a man's life.
That's a lot to try to get into a newsreel. Mm-hmm.
It's a good shot, Thompson, but what it needs is an angle.
Yeah, yeah. Right.
All we saw on that screen was that Charles Foster Kane is dead. I know that. I read the papers.
Yeah.
You see, Thompson, it isn't enough to tell us what a man did. You've got to tell us who he was.
Needs that angle.
Certainly. Wait a minute. What were Kane's last words?
You don't read the papers.
When Charles Foster Kane died, he said just one word.
Rosebud.
Now, what does that mean?
A racehorse he bet on once.
Yeah, that didn't come in.
All right. But what was the race?
Rosebud.
Thompson.
Yes, Mr. Wells.
Roll this picture up a week. 2 weeks if you have to.
What do you think right after his death? Might have
find out about picture. Rosebud. Get in touch with everybody that ever knew him. Oh, who knew him well. That manager of his, Bernstein. His second wife. She's still living.
Susan Alexander Kane.
She's running a nightclub in Atlantic City.
Yeah, that's right.
See them all. Get in touch with everybody that ever worked for him. Whoever loved him. Whoever hated his guts.
I'll get on it right away, Mr. Olson.
Good. Rosebud, dead or alive. It'll probably turn out to be a very simple thing.
Et oui, sans doute, l'énigme Rosebud finira par s'avérer être une chose très très simple. C'est le cas, mais ne dévoilons pas la fin pour l'instant. Le journaliste Thompson va donc être chargé de percer le mystère même de Rosebud. Il va rencontrer tous ceux qui ont connu Kane dans son enfance et à l'âge adulte, qui sont tous devenus vieillards. Et chaque interview de personne va donner lieu à un flashback. C'est le procédé du film. Disons, Marc Sérigulo, quand même quelque chose qui peut poser problème aux spectateurs. Vous parlez de caméra subjective. C'est que cette première scène où l'on voit le visage de Kane en gros plan dire Rosebud, le spectateur la voit, mais personne n'est présent dans la pièce au moment où Kane meurt.
Bien évidemment.
Donc
bien
comment est-ce que les journalistes peuvent-ils savoir que son dernier mot a été Rosebud ?
Voilà, là c'est le fameux train électrique dans lequel nous emporte Orson Welles, évidemment. Donc rien ne peut le dire, évidemment. Mais nous nous apercevons de cette faute logique avec ce film, alors que nous gobons habituellement beaucoup de choses encore plus.
Ah, faute logique, ou alors c'est une manière de montrer que le spectateur est comme un personnage du film.
Oui, on l'intègre effectivement. Mmh. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui est intéressant dans News on the March, hein, donc cette bande d'actualité, elle n'est pas aussi neutre qu'on pourrait le croire. Hein. On voit bien qu'elle est extrêmement composée pour donner toute une série de pistes qui vont être utilisées par le film. Et c'est une sorte de capsule de temps. C'est la technique de Welles au début de sa carrière. Ça sera pareil pour La Splendeur des Amberson, son deuxième film. Les 10 premières minutes sont une sorte de briefing accéléré du spectateur. Et ensuite, une fois qu'on a donné effectivement cette intensité, une fois qu'on a compressé, mis en capsule, on va déliter et on va effectivement rentrer dans chacun des détails. Alors c'est très différent, bien sûr, entre les deux premiers films. C'est l'enquête, comme vous l'avez dit, les différents témoins et donc les différents points de vue. C'est une narration à point de vue. Alors que dans La Splendeur des Amberson, on montre comment le temps a passé pendant une vingtaine d'années et on retrouve les personnages 20 ans après. Mais c'est le même principe. Ça obéit au même principe. C'est le même type de début de film. Très, 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 très alerte, très vif, très compressé. Et ensuite, effectivement, on prend le temps de délier effectivement l'information. Je pense que stylistiquement, c'est très intéressant. Ces changements de vitesse. Seuls les très grands cinéastes arrivent à faire varier les vitesses. Godard, par exemple, quand il est à son meilleur, je sais pas, dans Pierrot le Fou, par exemple, on retrouve vraiment ce type de variation de vitesse et de gestion du temps par le film. Ce sont des grands narrateurs. Il raconte beaucoup d'histoires.
Vous parlez de Godard, voici un témoignage de son contemporain à l'époque. Il s'agit de François Truffaut, sa réaction après avoir vu Citizen Kane.
Il y a peu de scènes dans Citizen Kane dont on a envie de dire « tiens, elle serait mieux comme ci ou comme ça ». Mais curieusement, bien malgré cette perfection, c'est quand même un film d'amateur. C'est le plus grand film d'amateur du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un film de studio, ce n'est pas un produit. On n'a pas l'impression que le script est passé par beaucoup de mains qui ont approuvé. Ou effectivement, Orson Welles avait carte blanche, c'était un studio assez spécial, RKO. Et il a fait un film qui est quand même un film à la fois effectivement de jeune homme, à la fois un film d'écrivain, à la fois un film... C'était pas un film d'Hollywood, on le sentait. Et à cause de ça, je pense qu'il y avait ce grand élan de nous tous, de Rivet, de tous les gens des Cahiers du cinéma aussi, vers Orson Welles. Les autres suscitaient l'admiration, et Orson Welles, il y avait admiration, il y avait aussi quelque chose qui ressemblait à de l'amitié, et aussi une sorte d'encouragement.
I'd rather you just talked. Anything that comes into your mind about yourself and Mr. Kane.
With money, a lot of what comes into my mind about myself and Mr. Charlie Kane. You know, maybe I should never have sung for Charlie that first time I met him. But I did an awful lot of singing after that. I tell you, he was really interested in my voice. What do you suppose he built that opera house for? I didn't want it. I didn't want to sing. It was his idea. Everything was his idea. Except my leaving him.
Il mio cor, don't forget ta 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 ta. Some people can sing, some can't. Impossible!
It's not your job to give Mrs. Kane your opinion of her talents. You're supposed to train her voice, Signor Battisti.
But Mr.
Nothing
Kane.
More. Please sit down and continue the lesson.
But Mr. Kane.
Please.
But how can I persuade you?
You can't. It's all right, darling. Go ahead. I thought you'd see it my way.
La première personne que le journaliste Thompson va voir pour son enquête, pour essayer d'élucider la signification de Rosebud, est la seconde épouse de Kane, qui s'appelle Susan Alexander, interprétée par Dorothy Comingore. Bon, celle-ci est complètement ivre, on l'a entendu la voix, même si on parle pas anglais, on entend la tonalité de la voix assez particulière, c'est une voix très haut perché, avec un accent américain assez fort et typique des années 40 au cinéma américain. Et ensuite, flashback donc, on l'entend prendre des cours de chant, puisque Kane s'entête à vouloir de faire d'elle une chanteuse, il lui fait construire un opéra à Chicago. Et le drame, c'est qu'elle chante extrêmement mal, Marc Salviello.
Eh oui, il y a
enfin, extrêmement mal. Tout le monde ne chante pas comme elle chante, ce qu'on a entendu, mais elle chante pas très juste.
Non, c'est pas ça. Il y a un plan formidable à l'opéra, justement, là, où on monte effectivement peu à peu dans les cintres et on découvre des techniciens qui sont vraiment des ouvriers,
mais qui ont l'habitude des
vrais chanteurs et qui tournent la tête de manière un petit peu désespérée en disant non, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est de montrer qu'effectivement, le désir de Kane va au-delà effectivement de la réalité objective. C'est quelqu'un qui tord le cou à la réalité. Il y a un lien très fort avec la personnalité de Welles. On le comprendra petit à petit parce que compte tenu de la difficile réception du film, le modèle donc très célèbre William Randolph Hearst, le mania de la presse, c'était vraiment reconnu, c'est le moins qu'on puisse dire dans le film. Enfin, il savait déjà tout le long de la préparation du film qu'il y avait ce projet et il a tenté d'empêcher la sortie du film. Il faut bien comprendre que l'Empire Hearst contre ce jeune homme de 25 ans, c'est un combat quand même très déséquilibré. Et c'est pour ça aussi que la prise de parole de François Truffaut est très précieuse.
Oui.
Elle dit bien ce qu'a été l'élan.
C'est un film parfait,
l'héroïsme
mais un film d'amateur.
De Welles, ouais. Ah oui, alors.
Ça, c'est intéressant. Il reconnaît la perfection du film tout en insistant sur le fait que ça reste un film d'amateur.
Oui, il a raison. Je pense que Truffaut a, enfin, c'est tellement célèbre ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est-à-dire que Truffaut est quelqu'un, on le sait, qui doit beaucoup aux grands critiques de l'époque, André Bazin. Bazin a été une sorte de père de substitution pour Truffaut. Quand Truffaut a été libéré de son centre pour délinquants juvéniles, c'est grâce à Bazin qu'il a trouvé un emploi, une adresse. Il habitait chez lui. Enfin, ça a été et le jeune Truffaut, qui a été un très jeune critique, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment été extrêmement précoce dès l'âge de 17-18 ans. Il est devenu le critique le plus important de son temps, justement, en même temps, puis après André Bazin. Et Bazin a été le très grand défenseur de Wells. Donc il y a eu tout un élan autour de Bazin, d'abord, c'est-à-dire avant la création des cahiers du cinéma en 1951, c'est ce à quoi faisait allusion Truffaut quand il évoquait Jacques Rivette et d'autres futurs cinéastes de la Nouvelle Vague à cette époque-là. Donc il est devenu une sorte de héros de la cinéphilie française, je dirais de la vieille génération, celle d'Alexandre Astruc, d'Éric Rohmer, qui s'appelait encore Maurice Scherrer, d'André Bazin, c'est-à-dire ces cinéphiles, futurs critiques ou futurs cinéastes qui, à ce moment-là, donc, voient quelque chose de très important dans les années 45 et 46. Et les plus jeunes critiques, au moment où justement les cahiers ont été fondés à partir de 1951, et avec eux d'autres cinéphiles qui travaillaient dans d'autres revues. Enfin, ça a été une véritable passion, Wells. Donc il faut toujours le préciser, parce que parfois on peut se dire, mais pourquoi, qu'a-t-il en lui pour provoquer de tels accès?
Bon, il faut dire quand même, quand on regarde le film Citizen Kane, on est bluffé par l'image. On voit des plans qu'on n'a jamais vus avant, voilà. Surtout en 41, j'imagine.
Voilà.
Il est connu pour ses profondeurs de champ.
Et nous, notamment. En 45, puisque en France, on découvre ces films, c'est-à-dire les films de Sturges, d'ailleurs, les premiers films de Minelli, tout ce que les Français eux-mêmes vont appeler le film noir, tout ce qui s'est passé, Laura, Assurance sur la mort, en fait, tout cela est découvert en même temps, à l'après-guerre. Et ça crée un élan cinéphilique vers Hollywood qui est tout à fait considérable, mais qui est très différent de ce qui a eu lieu dans les années 1930 et au moment de la première décennie du parlant. Là, on a réellement l'impression que le cinéma a pivoté sur son axe, vers la subjectivité d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi par rapport à une forme d'héroïsme, y compris anti-hollywoodien de la part d'Orson Welles, parce que c'est un film qui effectivement ne ressemble pas vraiment à ce qui se fait. Alors la qualité d'image, comme vous le disiez, donc ça sont des choses extrêmement célèbres, on en entend parler, mais il faut voir le film pour le comprendre, c'est-à-dire la profondeur de champ, c'est-à-dire le plan long, les angles de prise de vue, de la contre-plongée qui est tout à fait le signe même peut-être.
C'est-à-dire le fait de filmer les acteurs par le bas.
Par le bas, on voit donc les plafonds, on voit le ciel, on est placé dans la position d'un spectateur au premier rang d'une salle de théâtre. Hein, donc, la subjectivité est là également. Elle est dans ces signes très précis qu'adresse Wells. Alors, pour Truffaut, pour Bazin, c'est formidable, mais c'est là que Truffaut a raison en parlant de films d'amateurs, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui essaye. Comme quand on vous donne une caméra et vous essayez de faire un film, et vous faites n'importe quoi, évidemment, moi aussi, hein, tout le monde. Mais Wells essaye cela avec un très grand chef opérateur qui s'appelle Greg Toland, qui a déjà travaillé sur la profondeur de champ. La profondeur de champ, il faut le préciser pour les auditeurs, c'est pas un champ profond, ce qui veut rien dire. C'est que l'image est également nette, hein, donc dans la profondeur.
Alors à 20, même 30 mètres de distance, on peut donc, on voit aussi bien le second plan que le premier plan.
Exactement. Et donc le second plan, cela donne par exemple, donc, on voit le jeune garçon jouer avec son traîneau, et il est niché dans une fenêtre tout au fond du champ, et au premier plan, on a la mère du jeune Charles Foster Kane avec celui qui va devenir son tuteur, et nous assistons à ce dialogue très important qui est au premier plan. Et au fond du champ, on voit le garçon en train de jouer, par exemple. Et ça,
ce qui est très troublant pour le spectateur, parce qu'on assiste à deux réactions différentes. Il y a une simultanéité qui est créée, qui est troublante et assez neuve, et qui produit un rapport différent au temps et au mouvement. C'est vraiment une expérience inédite pour un spectateur.
Non, c'est pas tout à fait inédit. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire, c'est que Toland, par exemple, qui est mort très jeune dans les années 1940, l'avait déjà expérimenté avec un autre réalisateur qui aimait beaucoup Bazin, mais qui a été moins apprécié des réalisateurs de la Nouvelle Vague, c'est William Wyler. Les films de William Wyler, comme La Vipère, par exemple, avec Bette Davis, Rue sans issue, Les plus belles années de notre vie à l'après-guerre, sont des films qui ont également utilisé ce type de filmage, notamment en profondeur de champ, avec des grands angulaires, avec des grands... On voit tout cela dans le cinéma, mais Welles, justement, se l'approprie. Quand il regarde beaucoup de films quand il arrive à Hollywood, et il comprend que là, il y a quelque chose d'intéressant et il a envie d'avoir ce chef opérateur. C'est très intéressant parce qu'il ne connaît pas grand-chose au cinéma. Il voit beaucoup de films, on lui montre des John Ford, on lui montre d'autres types de films, et il essaye de comprendre. C'est comme ça, à mon avis, qu'il saisit l'idée d'être malgré tout relativement objectif et de ne pas faire donc ce travail là simplement en caméra subjective. Il comprend très très vite qu'il est en stage intensif en arrivant à Hollywood. Il comprend très très vite les collaborateurs avec lesquels il va vouloir travailler. Il travaille avec Bernard Herrmann à la musique.
C'est la musique. Ouais.
Il y a quand même un très très grand talent d'homme de troupe qui est réellement Orson Welles. C'est un chef de troupe du Mercury Theatre, et au cinéma ce sera à peu près la même chose. Il a une compagnie, hein, c'est un homme de compagnie théâtrale qui a fait ils ont fait de la radio, ils font maintenant du cinéma. Il y a ces très grands acteurs que sont par exemple Joseph Cotten ou Agnès Moorehead, pour citer deux vraiment piliers de la troupe de Welles. Et tout cela se met en place effectivement progressivement. Mais, c'est ce que je voulais dire, beaucoup de grands spectateurs, de spectateurs célèbres, n'ont pas apprécié le plus important, et certainement Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre s'intéressait vraiment beaucoup au cinéma et il avait écrit pour Combat une série de 5 articles en 1945 consacrés à Hollywood. Et il avait écrit en plus pour l'écran français un article sur quand Hollywood se met à penser, et c'est assez...
Qui en dit long, le titre en dit
beaucoup
déjà.
Et c'est une descente en flamme
de
Citizen Kane, et c'est très intéressant. Il trouve ça grimaçant. Il trouve que ses plans sont ridés. Il trouve qu'il y a effectivement une trop grande élaboration, on pourrait dire baroque ou expressionniste, dans le travail. Il voit relativement clair. Et il y a de très importants, très influents critiques dans les années 50 qui diront à peu près la même chose. On les appelait les MacMahoniens parce qu'ils avaient travaillé autour de cette salle du MacMahon à Paris. Et Michel Mourlet en particulier, qui s'en prenait à la fois d'ailleurs à Welles, mais aussi à Hitchcock ou à Eisenstein, en disant « on dit que ce sont des inventeurs de formes ». C'est vrai, on peut tous employer cette expression. Il y a des cinéastes qui sont de très grands inventeurs de formes, Jacques Demy également, Wes Anderson. Enfin, c'est une expression qui vient sous la langue. Et en même temps, c'est intéressant de voir ce que disent les MacMahoniens. Non, on n'a pas inventé la forme. La forme préexiste d'une certaine manière. C'est une sorte d'esthétique classique qui est très intéressant de dire pourquoi changer le monde d'une certaine manière. Le monde est là. Hein. C'est comme dans OSS 117 quand il demande pourquoi vous voulez changer le monde, vous les hippies. Il est très bien comme il est. C'est un peu d'ailleurs, c'était plutôt une critique un petit peu réactionnaire que celle de MacMahoniens, mais très très juste, très très fine. Et il préférait des cinéastes qui étaient comme Samuel Fuller, dont il va y avoir une rétrospective à la Cinémathèque bientôt, comme Preminger, comme Fritz Lang, qui eux respectaient davantage le réel, ne le tordait pas effectivement comme de manière un petit peu baroque en effet, comme le faisait Orson Welles. Et donc là, il y a des sensibilités. Quand vous montrez le film, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui sont un petit peu réservés parce que pour eux, le cinéma va peut-être dans un peu trop dans un autre, vers un ailleurs à ce moment-là.
Eh bien, parmi les gens qui adorent ou en tout cas qui estiment que ce film Citizen Kane apporte quelque chose de résolument nouveau, ce qui peut-être en déconcerte certains et en enchante d'autres. Truffaut parlait de films d'amateurs, Sartre de films ridés, disiez-vous. Voici ce qu'en dit Gilles Deleuze dans le deuxième tome de ses volumes sur le cinéma, L'Image-Temps. Pour lui, eh bien, Citizen Kane, tout simplement, invente le concept même d'image-temps, grâce notamment aux techniques de profondeur de champ que vous évoquiez. Écoutez ce texte.
La première fois qu'une image-temps directe apparut au cinéma, ce ne fut pas sous les aspects du présent, même impliqués. Ce fut au contraire sous la forme des nappes de passé avec Citizen Kane de Welles. Là, le temps sortait de ses gonds, renversait son rapport de dépendance avec le mouvement. La temporalité se montrait pour elle-même et pour la première fois, mais sous forme d'une coexistence de grandes régions à explorer. Certes, ces régions de passé ont un cours chronologique, qui est celui des anciens présents auxquels elles renvoient. Mais si ce cours peut être aisément bouleversé, c'est justement parce qu'en elle-même et par rapport à l'actuel présent, d'où part la recherche, Ken mort, elles sont toutes coexistantes, chacune contenant toute la vie de Ken sous tel ou tel aspect. Chacune a ce que Bergson appelle des points brillants, des singularités. Mais chacune recueille autour de ces points la totalité de Ken ou sa vie tout entière comme une nébulosité vague. Bien sûr, c'est à ces nappes que les témoins puiseront pour évoquer les images souvenirs, c'est-à-dire reconstituer les anciens présents. Mais elles sont elles-mêmes aussi différentes des images souvenirs qui les actualisent que le passé pur peut l'être de l'ancien présent qu'il a été.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, un texte de Gilles Deleuze sur la musique inquiétante de Bernard Herrmann, qui signe donc la bande originale de Citizen Kane et de La splendeur des Ambersons, dont nous parlons aujourd'hui en compagnie du philosophe Marc Cerisuello. Le texte que l'on vient d'entendre de Deleuze n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des nombreuses lectures, analyses et interprétations auxquelles a donné lieu le film Citizen Kane dans le milieu cinématographique, intellectuel, philosophique. En l'occurrence, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc Cerisuello, mais c'est ce que Deleuze dit de ce film-là semble pertinent d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire que Wells invente quelque chose, invente une image et un nouveau rapport au temps.
Il dit quelque chose de très précis. Il veut dissocier les images souvenirs, simplement les souvenirs, et le fait qu'effectivement, il y a le cinéma est créateur de temps. Donc il dissocie le pur présent des autres, ce qu'il appelle des nappes du passé. Hein, donc ça, c'est très, très important. Parce que pour beaucoup à la fois de critiques, d'intellectuels et même de cinéastes, ou comme des écrivains cinéastes, par exemple comme Rob Grier, le cinéma est l'art du présent. Il est l'art du présent parce qu'il fait coexister des présents et parce que, de toute façon, c'est le plus récent des arts. Donc, c'est une sorte de doxa qui est un peu gênante. Et Deleuze est assez bienveillant avec Rob Grier. J'en parle parce que, si ma mémoire est bonne, dans le texte, il y a Rob Grier, Wells, puis René.
Oui,
ça se situe comme ça dans l'articulation de Gilles Deleuze dans ce chapitre 5 de l'image-temps. Mais c'est pour d'autres qui sont beaucoup moins bienveillants que Deleuze à l'égard de Rob Grier, par exemple pour Stanley Cavell, qui dans un de ses textes réunis dans le cinéma nous rend-il meilleur est beaucoup plus cruel d'une certaine manière avec Rob Grier autour du fantasme, parce que la projection, un fantasme ou un flashback, c'est à peu près la même chose au cinéma. On a une projection qui est tiré vers l'intériorité, effectivement, du personnage. Alors, laissons de côté le fantasme, mais comme le fantasme est important dans le cinéma de Rob Grier, Cavell lui opposait Frank Capra dans La vie est belle, avec ce moment très leibnizien où le personnage peut vivre à un moment où il n'a pas existé.
Un monde dans lequel il n'existe pas, oui.
Un monde dans lequel il n'existe pas. Il y a également Belle de jour et le côté très indécidable des fantasmes de Séverine. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est purement un fantasme, un rêve éveillé, un daydream? Il y a d'autres éléments qui apparaissent comme ça, dans Vertigo également. Il oppose donc Vertigo, Belle de jour et It's a Wonderful Life à certains films de Rob Grier pour montrer que le cinéma est l'art du passé et non pas l'art du présent. Et Deleuze, lui, se situe encore ailleurs, en essayant de montrer que le c'est un peu ce que nous disions tout à l'heure avec ces capsules de temps qui sont. C'est pas simplement le souvenir qui doit apparaître dans chaque témoignage, dans chaque interview de vieux témoins. C'est la constitution réellement du temps. Donc on est dans le présent de l'interlocution, mais ce qui apparaît, ce n'est pas simplement le souvenir du passé. C'est chaque fois, on pourrait dire, ce complexe personne, Kane, le monde, et tout ça est réuni autour d'une conception du temps qui se distribue à chaque moment. À chaque moment, c'est le passé, le présent,
c'est ça.
Et le futur.
Il faut prendre la mesure de ce que dit Deleuze ici. Hein. Effectivement, il parle vraiment d'image-temps. Comment
C'est pour ça
Voilà, représenter, montrer le temps, rien que l'expression elle-même pose problème. Est-ce qu'on peut montrer le temps à l'écran? Et Deleuze,
c'est pour ça que les gens croient que c'est l'art du présent. Parce que
après-guerre, voilà,
c'est pour possible. Ça on croit toujours que c'est l'art du présent pour cette raison-là.
Or, parce
que
nous sommes présents, c'est le temps.
Ouais. Nous sommes présents à une projection qui correspond, qui est homologique à notre conception du temps. Mais c'est complètement faux. D'abord, ça a eu lieu, là, sur ce point qu'Avel a raison. Nous assistons à quelque chose à laquelle nous sommes absents, présents à quelque chose dans un monde auquel nous n'appartenons pas à proprement parler.
Celui du tournage, oui.
C'est la réalisation et la vie qui nous est montrée a eu lieu de toute manière. Ça, je crois. Mais ce que fait Bergson et la manière dont Deleuze le lit, et donc il y a plusieurs commentaires de Bergson. Là, je crois que c'est un passage de Matière et Mémoire qui est un autre commentaire de Bergson ici. C'est autour effectivement de ce passage-là, de la constitution de tous les temps qui représente effectivement le temps et pas simplement le présent ou pas simplement le passé.
On va rester dans le temps, mais on va aller à une époque où les gens prenaient le temps, où le temps pouvait se prendre, où le temps pouvait traîner. C'est le temps qui est décrit au début de La Splendeur des Ambersons, le deuxième film d'Orson Welles de 1942.
The magnificence of the Ambersons began in 1873. Their splendor lasted throughout all the years that saw their Midland town spread and darken into a city. In that town, in those days, all the women who wore silk or velvet knew all the other women who wore silk or velvet. And everybody knew everybody else's family horse and carriage. The only public conveyance was the streetcar. The lady could whistle to it from an upstairs window, and the car would halt at once and wait for her.
À cette époque-là, on avait le temps. Le temps de faire des courses en traîneau, le temps d'organiser des soirées, des bals costumés, de tenir table ouverte pour le nouvel an, de se rendre en pique-nique dans les bois, et de pratiquer une coutume aujourd'hui disparue, la sérénade. Certains soirs d'été, les jeunes gens amenaient un orchestre sous les fenêtres des jeunes filles, et flûte, harpe, violon, violoncelle, trompette et contrebasse jouaient des mélodies sentimentales qui s'élevaient vers les étoiles. Dans cette ambiance dominée par la douceur de vivre, la splendeur des Ambersons était aussi surprenante qu'un orchestre de cuivre dans un cimetière.
Regardez-moi ça!
La résidence des Ambersons, qui fait la gloire de notre ville.
On croit rêver.
60 000 dollars, rien que pour les charpentes et la menuiserie.
L'eau courante, chaude,
de la cave jusqu'au grenier.
Et des tables de toilette dans toutes les chambres à coucher, par-dessus le marché.
Mademoiselle Amberson, est-elle là?
Non, Monsieur Morgan, mademoiselle n'est pas ici.
Merci, Sam.
On a envie de continuer à écouter hein, ce film. Marc Serizulo, même sans le voir, même à l'écouter, tant Orson Welles a une voix de conteur extraordinaire.
On a ah pu oui, l'entendre, donc ça c'est incontestable.
Là encore, pas besoin de parler anglais pour être envoûté par le oui. ton de sa voix. Et puis tout est fait, alors là, peut-être à l'inverse de certains autres films d'Orson Welles, c'est un montage et un rythme très dynamique, très enjoué avec la musique et qui on va nous raconter une histoire et puis voilà ce qui se passe. Le spectateur est happé en deux secondes et... Au moins au début du film, il y a un côté assez joyeux, un gag même, puisque là en fait ce qui est raconté c'est qu'à cette époque où les gens prenaient le temps de le prendre, on faisait des sérénades. Donc le jeune homme qui vient faire la cour à la jeune fille qui se situe à la fenêtre de sa maison arrive avec tout un orchestre pour jouer de la musique. Or, manque de chance ici, le personnage qui veut séduire la fille, eh bien tombe sur son violoncelle. Ça on le voit à l'image. C'est une espèce de scène comique en fait, on a envie d'en rire. Or, c'est à partir de ça que tout son destin va se décider. Parce que la ville entière est au courant, sa réputation est entamée, et du coup, la femme ne peut plus l'épouser. C'est le point de départ du film.
Oui, voilà, c'est une autre capsule de temps. Il y a une plus grande maîtrise. C'est moins un film d'amateur, d'une certaine manière.
C'est un film moins connu, mais extraordinaire, je dois dire.
Oui, parce que là, il est réellement dans la foulée du premier film. Il n'est pas encore interrompu par toutes les difficultés qui vont être les siennes quand il va vouloir tourner It's All True, puis The Stranger. Enfin, on est encore dans une époque relativement bien heureuse, en dépit des difficultés de la sortie liée à la sortie de Citizen Kane, et il progresse très très vite, et la manière dont il a un autre collaborateur tout à fait extraordinaire à l'image, il s'agit de Stanley Cortez. Stanley Cortez, qui lui vivra longtemps, contrairement à Greg Toland, c'est par exemple celui qui a fait l'image de La Nuit du Chasseur, de Charlton, ou de Shock Corridor, de Samuel Fuller. C'est un immense artiste du noir et blanc. Et la façon dont Stanley Cortez montre effectivement les personnages de la ville qui commentent toute cette histoire où leur silhouette se dégage en contre-plongée sur ce ciel blanc et où il y a à la fois la voix de la narration d'Orson Welles lui-même, mais également donc les commentaires, les dialogues des gens de la petite ville et toute cette surcharge réellement à la fois émotionnelle de voix qui s'empare de nous. C'est très très fort ce qui est fait à ce moment-là. Peut-être trop fort là encore. Et les gens qui n'aiment pas Welles diront mais c'est trop. On n'a pas besoin d'avoir ces plans ultra surchargés d'abord des hommes puis des femmes en train de s'habiller, en train de dire ce qui va se passer.
Là, mais c'est un peu théâtral. Y a une grande vitesse. On pense au cœur antique des tragédies antiques, hein, quand on voit ces personnages de la ville.
Oui, voilà,
c'est
une sorte de film choral, hein, ouais. D'une certaine manière aussi. Hein, donc et tout cela va redescendre, encore une fois. Oh, il dit que nous avons le temps, et cette narration est extrêmement rapide, et il se passe 20 ans, et on revient chez les Amberson pour une grande soirée, et là, c'est une des grandes splendeurs, peut-être, non, je sais pas des Amberson, mais en tout cas de la cinématographie de Welles, c'est cette soirée où 20 ans après, 20 ans sont passés, chacun des...
Parce que On est au tout début du film, hein.
Oui, ce que nous n'avons pas dit, c'est que effectivement, à cause de cette chute malencontreuse, cet homme Morgan. ne pourra pas vivre cet amour avec cette jeune femme qui épousera donc un Minifer et donc et là on a deux moments effectivement qui vont clairement séparer 20 ans entre cet homme et cette femme qui s'aiment toujours et chacun va avoir un enfant, elle va avoir un fils absolument insupportable qui nous est montré dans cette ouverture et on va découvrir en revanche lors de la soirée la jeune femme de Morgan et là l'histoire très viscontienne d'une certaine manière
de la
chute
départ, ouais.
D'une grande famille va apparaître et ça va être toute l'histoire de la splendeur des Amberson. Ces entames de films sont tout à fait extraordinaires. Là, peut-être davantage, je dirais, la splendeur des Amberson à cet égard. Ouais.
C'est un film sur les rumeurs, en réalité, puisque c'est la réputation de l'homme Morgan qui est ruiné parce qu'il tombe sur son violoncelle alors qu'il essaye de séduire la fille Amberson. Et donc, suite à ça, elle ne peut plus l'épouser. Elle se retrouve 20 ans après. Ils ont chacun refait leur vie, vous l'avez dit. Les deux enfants ont à peu près le même âge. Ils vont essayer de se séduire, évidemment. Eux, on voit très bien qu'ils s'aiment encore, qu'ils sont passés à côté de leur vie parce qu'ils n'ont pas pu s'épouser à cause des rumeurs qui sont persistantes. Et tout le long du film, George, le fils Amberson, tout le long du film, il est dupé. Et à la fin, il se rend compte qu'en fait, il est le seul à ne pas savoir que sa mère était amoureuse de ce fameux Morgan qu'il tient pour un demeuré, qu'il méprise profondément.
Alors qu'il est l'homme de l'avenir, l'homme de l'automobile.
De l'automobile.
Et que les Amberson et les Minifer, eux, au contraire, vont connaître petit à petit, effectivement, la ruine qui vise les grandes familles qui n'ont pas su s'adapter au monde moderne. Donc c'est une histoire très, très importante, en fait. C'est une histoire... C'est réellement complémentaire de l'histoire de Kane, qui, lui, c'est une histoire de succès et de malheur dans le succès et d'isolement. Tandis que là, on a au contraire, effectivement, une sorte de dialectique entre ces deux forces qui sont en jeu. Ce sont des histoires américaines, mais rarement le cinéma américain les aura montrées avec une telle netteté. Hein, donc c'est courbe ascendante et courbe descendante, les deux familles. Et puis là, une sorte de il y a des très belles scènes où il est vraiment stupide et elle crâne la jeune fille pour montrer qu'elle ne tient pas du tout à lui alors qu'elle tient encore à lui. Et il ressemble un petit peu à Welles d'ailleurs.
Complètement. Le George, on pense à Welles tout le temps.
Le George en question est très, c'est très intéressant. On voit bien que dans le casting, il met également pas mal de lui-même.
Et pour faire le lien avec ce que vous disiez, la first person singular, donc l'expression là, avec le jeu à la première personne, vous la voyez où dans les Amberson? C'est le fait qu'il y a une voix off, narrative, qui
raconte l'histoire. Oui, je pense que c'est... La preuve, c'est que à la fin du film, nous avons droit à un générique parlé qu'il n'a pas, c'est une forme qu'il n'a pas inventée. Hein. Sacha Guitry le faisait dans les années 30, exactement de la même manière, en montrant chacun des acteurs, mais aussi chacun des techniciens. Mais voilà, il le faisait plutôt au début du film, en effet. Et il termine avec ce, voilà, donc My name is Orson Welles. Donc on voit très très bien que cette première personne est réellement assumée, alors qu'il ne joue pas dans le film, contrairement à Citizen Kane.
Écoutons donc ce générique de fin, écoutons la façon qu'il a de présenter son équipe à la toute fin du film, et en fait évidemment à la fin de se présenter lui-même.
I've been true at last to my true love. Ladies and gentlemen, The Magnificent Ambersons was based on Booth Tarkington's novel. Stanley Cortez was the photographer. Mark Lee Kirk designed the sets. Al Fields dressed them. Robert Wise was the film editor. Freddie Fleck was the assistant director. Edward Stevenson designed the ladies' wardrobe. The special effects were by Vernon L. Walker. The sound recording was by Bailey Fessler and James G. Stewart. Here's the cast. Eugene, Joseph Cotton. Isabel, Dolores Costello. Lucy, Ann Baxter. George, Tim Holt. Fanny, Agnes Moorhead. Jack, Ray Collins. Roger Bronson, Erskine Sanford. Major Amberson, Richard Bennett. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production.
C'est vrai que je préfère de faire le cinéma que de voir le cinéma. Avant que je sois un filmmaker, quand je suis absolument innocent, et je suis un homme de théâtre, et de journalisme, et de littérature, tout ça, mais le cinéma était un mystère. J'étais un grand, comment on dit, fan, aficionado.
Amateur.
Un amateur passionnant de cinéma. Mais le moment que j'avais pris le petit secret technique de cinéma, la magie est disparue pour moi. Je suis toujours intéressé, mais maintenant, c'est difficile pour moi d'oublier, quand je suis dans une salle et quand je vois un film, d'oublier la claquette que j'ai avant la scène. Et c'est seulement le très grand film, le chef-d'œuvre, qui me donne la magie, ou le film très mauvais. C'est juste d'aller au cinéma. J'avais perdu ce plaisir.
C'est bouleversant d'entendre Welles dire ça à Marc Sergiello. C'était en 1973, au micro de France Culture. Bon, il dit qu'il préfère faire le cinéma que le voir, avec son français si caractéristique. Mais surtout, il décrit très bien la perte de magie qui s'opère dès lors qu'on passe de l'autre côté de la caméra. Lui dit ne pas retrouver le plaisir ou la magie du spectateur qui croit à un monde qui est projeté devant lui.
C'est ça. C'est fondé sur la perte, effectivement, et à partir de, mais ce n'est pas un cinéphile. Il a très bien dit, hein, il s'intéressait surtout au théâtre, à la politique, hein, ça on ne l'a pas dit, mais Welles a très souvent dit qu'il aurait voulu faire de la politique.
Comme Kane.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui a réellement pensé qu'il pouvait intervenir dans le débat général, puis qui a compris que finalement il fallait aussi vivre, faire du Orson Welles. Donc il y a des tas d'apparitions dans des films. Je pense à Casino Royale, par exemple, dans les années 60. Mais il est parfois étonnant, d'ailleurs, dans certains films. Il apparaît dans une adaptation de Jane Eyre en 1944. Et c'est vraiment une sorte de... Il y a les moments où l'histoire est racontée et on est réellement dans Jane Eyre. Et puis quand il est là, on est avec Orson Welles. Ah ouais. Il y a une sorte de montage à l'intérieur du film. Cet effet-là, il a eu souvent du mal à le gérer. En revanche, il y est arrivé très très bien dans certains de ses films, comme La Dame de Shanghai, ou dans La Soif du Mal. Là, vraiment des films qui sont plutôt des films qui appartiennent à l'esthétique du film noir. Je crois que vous avez déjà parlé de Shakespeare dans cette série d'émissions. Mais là, en dehors donc de la grandeur absolue des films shakespeariens, ce sont dans ces films de genre, on pourrait dire, qu'il arrive à atténuer effectivement cette forme d'hétérogénéité de sa présence à l'intérieur du film. Parce c'est quelqu'un de très spécial.
C'est le moins qu'on puisse dire, ce sera le mot de la fin. Merci Marc Sérigello d'être venu nous parler d'Orson Welles aujourd'hui. De vous, on peut lire des ouvrages consacrés à Wes Anderson aux éditions Capricci et toujours aux mêmes éditions aussi un livre sur les frères Cohen, O Brothers, Fondus enchaînés et cette poétique du cinéma aux éditions du Seuil dont paraîtra bientôt le second volume. Et enfin, je rappelle que la semaine prochaine, le 13 décembre, paraîtra un coffret Preston Sturges chez Westside. On se quitte avec la chanson du film Citizen Kane. Souvenez-vous, en plein milieu du film, Citizen Kane a fait venir des danseuses qui le portent nu et ça donne ça.
Such a party. What's the matter?
The knee. Who says amiss? Was made to kill. And when he leaps, one always tries to do exactly this. Who buys the food?
Who buys the food?
Who buys the drinks?
Who buys the drinks?
Who thinks the dough was made to spend the next the way he thinks? Now is it John?
Bernstein, these men who are now with the Enquirer, who were with the Apple until yesterday.
Vous écoutez France Culture, le chemin de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. C'est incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, c'est un journal aujourd'hui sur un mot qui apparaît souvent dans l'actualité, alors qu'il n'a rien à voir avec Johnny Hallyday, c'est le mot de néo-conservateur. Terme polémique qui surgit souvent en opposition à ce qui serait bien-pensant, il reste pourtant peu défini. L'occasion est donc donnée aujourd'hui de le faire grâce à cet ouvrage de Juliette Grange qui vient de paraître aux éditions Pocket. Alors, qui sont les néo-conservateurs ? Qu'est-ce qu'être un conservateur aujourd'hui ? Ce qui peut toujours sembler un peu paradoxal quand on se dit que néo veut dire nouveau et conservateur, eh bien conservateur, soit le contraire a priori de la nouveauté.
Thank you so much, it's so great to be in Iowa. We're here just thawing out, looking around at all of you, you hard-working Iowa families, you farm families, and teachers, and teamsters, and cops, and cooks, you rock and rollers, and holy rollers. I was told, you know, warned left and right, you are going to get so clobbered in the press, you are just going to get beat up, and chewed up and spit out, and you know, I'm thinking, and yeah.
D'abord apparu aux États-Unis, souvent associé au Tea Party et identifié à quelques personnes, comme celle de Sarah Palin que l'on vient d'entendre, le néoconservatisme est un mouvement politique qui mêle néolibéralisme et retour aux valeurs morales et religieuses. Il est pourtant nouveau dans son appellation et dans ses moyens de diffusion. Clubs, think tanks, lobbies, blogs, forums, mouvements divers, cercles catholiques, anti-IVG, royalistes, etc. C'est ainsi qu'il dépasse largement le cadre du Tea Party ou la personne de Sarah Palin, et que depuis les années 2000, comme l'a observé Juliette Grange, le néoconservatisme n'est plus seulement américain, mais aussi français. Mais alors, qu'est-ce qu'un néoconservatisme hors les murs des États-Unis? Ce qui se joue ici, c'est de savoir en quoi il consiste, en quoi consiste ce paradoxe d'une nouveauté qui veut conserver, préserver, protéger un état des choses tel quel, mais aussi de savoir ce qu'un conservatisme peut conserver de lui-même à travers les frontières et le temps. Au fond, la question, s'il n'y en a qu'une, est celle-ci. Comment un conservatisme peut-il être nouveau? Comment peut-il se régénérer, se renouveler à travers ses adhérents, ses moyens et les pays sans se transformer, en étant donc toujours le même? Autrement dit encore, comment conserver le conservatisme? Eh bien, deux exemples peuvent nous aider ici. Voici le premier.
En France, ce sera le détonateur d'un mouvement plus profond, plus vaste, d'une épreuve, d'un affrontement, mêlant pêle-mêle aux revendications estudiantines, celles du monde ouvrier, des classes moyennes, des intellectuels et des paysans. Le 2, les cours sont suspendus à Nanterre, et le 3, la police fait évacuer la Sorbonne. Les manifestations sont violentes, et le 5 mai, 13 manifestants seront condamnés, dont 4, à des peines de prison ferme.
Mai 68 est un des exemples régulièrement convoqués par les néoconservateurs, mais aussi la Révolution ou encore la République. C'est que le néoconservatisme, à lire cet ouvrage, est d'abord une affaire de réinterprétation. C'est une affaire de rénovation, de restauration des événements et des noms dans leur sens caché, et qu'il s'agirait donc de dévoiler dans leur véritable signification. On est proche ici du complot. Avec le néoconservatisme, mai 68 n'est donc plus ce que l'on a pu croire, une révolution ou au moins une révolte. Non, c'est une démolition, une déconstruction de ce que devait être l'ordre et la morale. Avec le néoconservatisme se joue donc la déconstruction de la déconstruction, de ce qui est en tout cas considéré comme tel, de ce qui était appelé comme tel, mais à tort. Tout est donc bien une question de rénovation et de restauration, mais d'abord dans notre manière de parler, de nous exprimer, d'opiner. Le néoconservatisme ne change pas, lui, il nous pousse à changer nous en prétendant appeler un chat un chat.
La mobilisation s'amplifie contre la loi Taubira. Il y avait 1,4 million de participants de la Grande Arche de la Défense jusqu'à la place de l'Étoile à 5 km de là. 1,4 million selon les organisateurs, 300 000 personnes selon la première estimation de la préfecture de police de Paris.
Vous ne pouvez pas aller contre le mouvement de la conscience humaine. On ne change pas l'être humain, sauf à le livrer au marché. C'est ça qui nous attend. Parce qu'en ouvrant le mariage, on ouvre les droits procréatifs. Le mariage, c'est la procréation. Les droits procréatifs, pour deux personnes qui ne peuvent pas procréer ensemble, c'est artificiel, ça s'appelle la PMA et la GPA. Ça veut dire que demain, l'être humain est mis sur le marché.
Deuxième exemple du néoconservatisme, la manif pour tous. Mêlant aussi bien théoconservateur, anti-IVG ou anti-Taubira, là encore, une Frigide Barjot prétendait nous ouvrir les yeux, nous rappeler ce qui était au fond à l'œuvre dans le mariage pour tous. Mais n'est-ce pas là un pur artifice, de dangereux jeux sur les mots? Vouloir ouvrir les yeux, vouloir déconstruire, ramener du sens et du bon sens n'a rien de neuf. En cela, le conservatisme se conserve bien. Mais former l'opinion en la transformant, là est le paradoxe et le danger, car non seulement transformer l'opinion, la tordre et la détourner n'a plus rien dès lors d'une restauration, mais c'est oublier qu'elle se forme elle-même et que son bon sens ne se fabrique pas et n'est pas à faire. Et Adèle, si vous voulez donc en savoir plus sur les néoconservateurs, eh bien lisez ce livre de Juliette Grange, c'est paru aux éditions Pocket.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci aussi à Claire Perryman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Louis Servet, David Pargamin, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Azubert qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, exceptionnellement, je vous propose de redécouvrir l'émission du 6 octobre dernier consacrée à Emmanuel Berle, et en studio pour en parler se trouvait Olivier Philipponat. et Jean-Dor Maisson. Vous comprenez désormais pourquoi je vous propose de redécouvrir cette émission. À demain donc, mais d'ici là, pour réécouter cette série consacrée à Orson Welles, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. Je vous annonce également la sortie du numéro papier France Culture Papier, la revue de France Culture numéro 23, au sommaire, les nouveaux marchés de la croyance. Tout un programme. Restez à l'écoute sur France Culture.